franceinter.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans Service Public. C'est la première fois dans l'histoire de notre planète que l'étendue des activités humaines empiète autant sur le système naturel. Ainsi parle le professeur Paul Ehrlich, biologiste à l'université de Stanford, extrait d'un documentaire diffusé très récemment sur Arte à propos de la disparition des abeilles. C'est vrai que les chiffres sont très alarmants. Il faut rappeler tout de même que plus d'un tiers de notre alimentation repose sur ces abeilles. Alors comment expliquer cette disparition? Quel rôle joue la pollution, certes, mais quel rôle joue également l'homme? Faut-il renvoyer dos à dos abeilles et apiculteurs, comme cela a été écrit? Et puis quelles sont à terme toutes les conséquences de ce phénomène qui reste pour une part assez mystérieux? Pour l'heure, déjà plus d'un millier d'apiculteurs français ont dû cesser leurs activités et on prévoit même qu'aux États-Unis, il n'y aura carrément plus d'abeilles en 2035. Alors il existe pourtant de nombreux moyens d'agir dès aujourd'hui. Il existe même pléthore d'initiatives un peu partout dans le monde et un peu partout en France, en tout genre. On est là pour en parler ce matin dans Service Public.
Les abeilles sont partout, mais nous les voyons à peine quand elles butinent de fleur en fleur. Elles existent sur Terre depuis bien plus longtemps que l'homme. Et il y a 8000 ans, l'homme et l'abeille sont devenus des partenaires. En 2006, la nouvelle s'est répandue qu'en Amérique, des centaines de millions d'abeilles avaient disparu de leurs ruches. Cela pourrait être le début d'un film de science-fiction, mais ce ne l'est pas. Dès les années 90, les apiculteurs signalaient d'énormes pertes en Europe, dans les Amériques et en Asie. Partout dans le monde industrialisé, les abeilles sont en train de mourir.
C'est une vraie catastrophe.
Les apiculteurs, désemparés, ne savent plus que faire.
Extrait de ce documentaire diffusé cette semaine sur Arte, record d'audience d'ailleurs pour ce documentaire, signé Marc Daniels, produit par Christine Le Goff qui est avec nous ce matin. Bonjour, merci Bonjour. D'être avec nous. Et j'imagine que vous êtes satisfaite donc de ce record d'audience. 1 300 000 téléspectateurs, donc on voit bien que ce sujet passionne les Français. Je vois déjà d'ailleurs que les auditeurs de France Inter se manifestent et veulent prendre la parole. Documentaire qui est le fruit d'une enquête de 18 mois de tournage un peu partout en Europe et surtout aux États-Unis. Une enquête patiente, ardue, inexorable, stimulante. C'est pas moi qui le dis, c'est un journaliste de La Croix, Robert Migliorini. C'est vrai que ce documentaire a beaucoup plu. Alors, si vous l'avez loupé, il est disponible en DVD à partir d'aujourd'hui même. Un DVD, bien sûr, signé Arte. 01 45 24 7000. N'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole et vous exprimer. Je vois d'ailleurs qu'il y a des apiculteurs, des agriculteurs qui veulent prendre la parole. Et vous pouvez bien sûr vous exprimer sur franceinter.com. Avec nous également, nous avons Henri Clément, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'UNAF, l'Union Nationale de l'Apiculture Française. On vous voit d'ailleurs dans ce documentaire. Et vous êtes installé par ailleurs dans les Cévennes, en Lozère, où vous avez vos ruches. Et j'imagine que comme tous les apiculteurs français, vous avez vu vos ruches disparaître les unes après les autres.
Un peu moins que dans les zones de grande culture, mais effectivement, la situation de l'apiculture aujourd'hui est tout à fait préoccupante.
Très préoccupante, et on est là donc pour essayer de la comprendre, essayer de cerner un petit peu les causes, puisqu'elles sont nombreuses. On dit souvent que c'est multifactoriel, cette disparition d'abeilles. Nous avons un troisième invité qui est à Avignon, mais son avis nous intéresse beaucoup, puisqu'il fait partie de l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Bonjour Bernard Vessière.
Bonjour.
Vous travaillez sur cette mystérieuse disparition, mystérieuse de moins en moins, comme je le disais, cette disparition s'explique par plusieurs facteurs. Est-ce qu'on peut essayer de cerner peut-être avec vous d'emblée la part de l'homme, la responsabilité de l'homme et la responsabilité peut-être des apiculteurs, comme j'ai pu le lire?
D'abord, première chose, on parle beaucoup, les abeilles, c'est 1000 espèces en France, c'est 2500 en Europe, c'est 20 000 dans le monde. Toutes les abeilles, y compris les abeilles sauvages, sont en déclin. Ce déclin a été démontré par un article dans Science, par un compte-rendu de l'Académie des sciences aux États-Unis sur la situation en Amérique du Nord. Donc on ne parle pas uniquement du déclin des abeilles domestiques. Simplement, pour les abeilles domestiques, il y a les apiculteurs qui tirent la sonnette d'alarme. Mais pour toutes les abeilles, en fait, on a un déclin qui maintenant est démontré. Donc ce n'est pas uniquement la faute des apiculteurs, parce que les apiculteurs n'ont rien à faire par rapport à ce qui se passe pour les abeilles sauvages. Les abeilles sauvages sont en majorité des abeilles solitaires. qui vivent dans le sol. Trois grandes causes ont été évoquées, trois causes principales sont actuellement reconnues et évoquées par la communauté scientifique pour expliquer le déclin des abeilles. La première chose, c'est l'évolution des habitats, avec l'extension des monocultures, le traitement des bords de route, des bords de champs, ainsi de suite, qui se traduisent par des réductions considérables de ressources alimentaires, c'est-à-dire de nectar et de pollen pour les abeilles, et aussi de ressources de nidification pour les abeilles sauvages. La deuxième grande cause, c'est les pathogènes et puis les maladies, les prédateurs. Pour l'abeille domestique, c'est l'acarien varroa destructeur qui est arrivé en France en 1982 et qui a fait des ravages considérables, en particulier il n'y a pratiquement plus de colonies sauvages d'abeilles domestiques, d'abeilles de ruche. C'est plus récemment Nosema serranae, qui est un microsporidien champignon, qui a été découvert en Europe. Et plus récemment en France, en termes de prédateurs, c'est le frelon asiatique, qui là où il est présent peut aussi causer des dommages considérables sur les colonies d'abeilles domestiques. On ne sait pas actuellement son impact sur la faune sauvage.
Merci Bernard Vessière pour ce rappel.
La troisième grande cause, c'est les pesticides.
Bien sûr, alors là on va y venir. Oui. On va y venir dans un instant. Mais j'avais envie effectivement de votre description très pédagogique de ces causes multiples. Et Christine Le Goff, justement, vous qui êtes productrice de ce documentaire, et Marc Daniels est avec nous, d'ailleurs l'auteur du film, je le salue, il est avec nous dans le studio, il est d'origine américaine. Est-ce que le but pour vous de ce documentaire n'était pas justement de mettre tout à plat? On a un peu tendance, c'est vrai, dans l'opinion publique, on a tendance à se dire disparition des abeilles, allez hop, c'est les pesticides, etc. On a même parlé des antennes relais, les téléphones portables, etc. On a tout dit, tout et parfois n'importe quoi. Est-ce que l'objectif du documentaire n'était pas de faire le clair, de tout tirer au clair?
Absolument, je crois que c'était quelque chose, on avait une véritable envie d'être très pédagogique. Et en fait, l'enquête du film suit notre propre découverte du problème. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, c'était un entrefilé dans un journal américain qui m'avait alerté à ce problème et je m'étais dit, tiens, une bonne histoire. Et de la bonne histoire, je n'avais pas réalisé que 4 ans allaient passer. Où en fait, j'ai réalisé avec Marc Daniels l'étendue énorme du problème et surtout l'ignorance dans laquelle nous étions. Donc effectivement, on pense qu'on sait des choses, mais on ne les sait pas vraiment. Et on a vraiment voulu mettre tout à plat en parlant à la fois aux apiculteurs et aux scientifiques. Et effectivement, le film est le fruit de ce travail.
Est-ce que ça signifie qu'il y a de moins en moins de mystère, puisqu'il y a le mot mystère qui revient à plusieurs reprises dans ce documentaire?
Absolument. C'est une vraie question parce qu'on avançait et on pensait avoir trouvé la solution ou en fait, en tout cas, la véritable cause. Et au fur et à mesure de ce travail, on s'est aperçu qu'à chaque fois, on faisait 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Donc, j'ai posé la question à Bernard Vessière récemment. Est-ce qu'on pouvait encore parler de mystère? Et sa réponse, il n'y a pas si longtemps, était oui. Mmh. C'est-à-dire que les causes sont tellement multifactorielles, elles sont aussi tellement étalé dans le temps qu'on n'est toujours pas aujourd'hui avec une véritable connaissance de comment toutes ces choses interagissent.
Un mot quand même sur ces fameuses antennes relais, puisqu'à une époque on en parlait beaucoup, et sur l'influence ou non des téléphones portables.
Écoutez, les abeilles meurent dans des endroits où il n'y a pas de téléphone portable et pas d'antenne relais, donc et elles vivent très bien en ville.
À Paris donc, notamment.
Exactement. Donc je pense que là, il y a effectivement des questions qui ne sont pas résolues, mais je pense que Bernard et Henri peuvent y répondre mieux que moi. Je crois que ça, c'est une véritable question qui n'est pas résolue.
Henri Clément, sur les antennes relais, les téléphones portables, et après, comme ça, le
moi,
sujet
je,
moi, sera
je crois
clos.
Que toutes les hypothèses expliquant les disparitions, pouvant expliquer les disparitions d'abeilles, doivent être étudiées. Maintenant, sur les antennes relais, moi, je suis un peu sceptique, puisqu'en fait, les plus belles récoltes de France se font à Paris. On ne peut pas dire qu'à Paris, il n'y ait pas d'antennes relais. Peut-être qu'il y a des ondes qui s'opposent, etc. Ça mériterait d'être étudié. Mais je ne pense pas que ce soit, d'ailleurs dans le monde entier aujourd'hui, c'est une hypothèse qui est un peu plus marginalisée.
On l'a dit, les chiffres sont très alarmants. Il y a de plus en plus d'apiculteurs qui voient leurs abeilles mourir. Et j'imagine que ça vous est arrivé, ça doit être dramatique d'ailleurs. Quand vous arrivez le matin et que vous voyez des centaines et des centaines d'abeilles mortes au pied des ruches, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi justement l'abeille est si sensible? Pourquoi on dit même que c'est la sentinelle de l'environnement?
Déjà, l'abeille, elle a quand même près de 80 millions d'années. Ouais. Elle était là bien avant que l'être humain soit sur cette planète. Et en fait, elles ont survécu à tous les bouleversements climatiques, etc. Et en fait, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale que les problèmes sont apparus au niveau des abeilles, avec de plus en plus d'ampleur. Et la France a été un pays un peu précurseur, hélas, en la matière de perte d'abeilles. On parlait même du mal français des abeilles dans les années 90. Et aujourd'hui, ce phénomène, il est dans le monde entier. Et c'est vrai que l'aspect humain a souvent été oublié. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai des amis qui avaient 4 générations d'apiculteurs. Et quand, à la fin de l'hiver, au début du printemps, vous allez visiter vos ruchers, généralement, c'était tout à fait serein auparavant. Mais quand vous avez une angoisse en disant qu'est-ce qu'on va retrouver et que vous retrouvez 30% des ruches vivantes, 70% de mortes, c'est dramatique. Et c'est dramatique non seulement sur le plan humain, mais c'est dramatique sur le plan économique, sur le plan travail. Parce qu'en fait, c'est quand même un outil de travail pour les apiculteurs professionnels. Ils n'ont jamais été indemnisés, donc il faut reconstituer les ruchers. Et on peut dire aujourd'hui en France que s'il n'y avait pas d'apiculteurs, grosso modo, les abeilles domestiques, nos abeilles, nous, donc des ruches, auraient quasiment disparu. C'est 30% des ruches qui ont disparu pendant des années.
Et est-ce que vous feriez le même pronostic négatif que celui qui est dit dans le film ? Il n'y aura plus d'abeilles aux États-Unis en 2035. Bon, il y a un système d'importation, etc. Mais est-ce que vous êtes très, très pessimiste aujourd'hui ?
Un peu moins qu'aux États-Unis, puisqu'on n'a pas du tout la même apiculture. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, l'objectif des apiculteurs, c'est déjà d'assurer la pollinisation et dans des conditions, moi, qui ne me séduisent pas. C'est-à-dire, ce sont des milliers et des milliers de ruches qui sont apportées sur les vergers, comme on le voit dans le film, très, très bien dans le film. Notre apiculture, elle est beaucoup plus humaine à l'échelle humaine. Et j'espère en tout cas qu'on va arriver à trouver des solutions pour que les choses se passent mieux en France, en Europe en tout cas. Mais c'est vrai qu'il faut que des décisions courageuses soient prises rapidement. Et je crains que ce ne soit pas encore le cas.
Voilà, on va y venir, bien sûr, puisque le film se termine d'ailleurs sur une question politique très large. Quel est le monde dont nous avons envie ? Dans quel monde avons-nous envie de vivre ? Et on voit bien effectivement qu'aux États-Unis, il y a une prise de conscience très forte, notamment au sein du Congrès américain. On réfléchira justement sur la question française, sur la prise de conscience des politiques français. Bernard Vessière, j'ai encore envie de vous questionner, puisque vous êtes membre de l'INRA, sur l'agriculture française. Henri Clément vient de nous expliquer que les conséquences étaient nombreuses. On voit bien que les apiculteurs sont en manque de travail. Mais les conséquences sur notre agriculture, est-ce qu'on les a bien comprises aujourd'hui ? Je disais que nous avions besoin de ces abeilles pour plus d'un tiers de notre alimentation. Est-ce que vous pensez que le grand public a vraiment conscience de cela ?
Écoutez, on a réalisé une étude avec des collègues allemands, américains, australiens, justement pour évaluer l'importance des pollinisateurs dans l'agriculture d'aujourd'hui. Et ce chiffre de 35% en tonnage et 70% des espèces cultivées qui dépendent de l'activité pollinisatrice des abeilles ou qui en bénéficient, il vient de cette étude en fait. Donc effectivement, 35% de notre alimentation. Ça ne veut pas dire que l'humanité mourra en 4 ans, comme on l'a mis dans la bouche d'Einstein, ce qu'il n'a jamais dit d'ailleurs, si les abeilles disparaissent. Mais ça veut dire que notre alimentation devra être profondément modifiée, parce qu'il y a un certain nombre d'aliments qu'on n'aura plus à disposition. En particulier, les fruits et légumes sont les premiers menacés, ainsi que les cultures oléagineuses et protéagineuses, et un certain nombre de cultures maraîchères, comme les fraises ou les cucurbitacées, c'est-à-dire les melons, les courgettes, et ainsi de suite. Donc oui, notre alimentation sera profondément modifiée, peut-être plus important, et là on en a moins conscience. Les abeilles, je rajoute le lait à nouveau, c'est-à-dire l'abeille domestique et les 1000 autres espèces et 20 000 autres espèces dans le monde, parce que toutes les abeilles participent à la pollinisation, il faut s'en rappeler. Si elles disparaissent, c'est 80% des plantes à fleurs qui vont disparaître. Ça veut dire qu'au niveau de notre environnement, ça va être considérablement modifié. Donc l'impact, il est réel. L'impact, il a été chiffré en termes même économiques. Dans le cadre du programme européen Alarme, on a déterminé que si on exclut les semences, l'impact économique des pollinisateurs sur l'agriculture mondiale, sur les cultures qui affectent notre alimentation, c'est 153 milliards d'euros par an. Voilà, ça a été fait sur une base de 2005.
Merci
donc
pour
c'est chiffré,
précisions.
C'est quantifié. Bon, maintenant, effectivement, on reste à voir l'impact que, d'ailleurs, on continue à y travailler sur notre vie de tous les jours, non seulement au niveau de notre alimentation, mais ça dépasse largement le cadre de notre alimentation.
Oui, c'est pas seulement la disparition de quelques pots de miel sur les linéaires des supermarchés. Comme ça, on a bien compris l'enjeu économique réel et bien sûr, derrière tout cela, l'enjeu politique. 01 45 24 7000, vous allez pouvoir prendre la parole et poser vos questions. Je vois d'ailleurs qu'il y a pas mal de questions et des réactions également. J'ai Bernard, tout simplement, avec quelques points d'exclamation qui nous dit, au lieu de chercher les traitements à des causes, il faut agir sur les causes. Eh bien, agir, oui, j'imagine qu'on va en parler. Il existe des moyens d'enrayer cette disparition des abeilles. Christine Le Goff, vous êtes d'accord avec moi, il existe des solutions. On n'est pas là les bras ballants à assister à cette disparition des abeilles.
Non, je crois que d'ailleurs le film était un cri d'alarme en disant il faut faire quelque chose avant que ce soit trop tard. Oui, il y a des solutions, je crois, à des niveaux individuels qui sont des actes que chacun peut prendre. Mais surtout, il y a des solutions à des niveaux bien plus larges de la société civile et politique en particulier.
On va y venir dans un petit instant. Alors, parmi les micro-solutions individuelles, je voudrais quand même citer l'initiative que vous connaissez certainement. C'est celle qui vient d'être lancée par le Muséum national d'histoire naturelle, qui a décidé de faire appel au grand public en leur proposant de devenir, et c'est vous-même qui utilisez cette expression, devenez un paparazzi d'insectes pollinisateurs. Il s'agit donc d'un suivi photographique des insectes pollinisateurs. C'est une initiative qui peut faire sourire, mais qui peut avoir son utilité, d'après vous, Henri Clément ?
Je pense que tous les petits gestes qui peuvent favoriser une prise en compte des pollinisateurs sont de bonnes choses.
Donc on les prend en photo ?
On les prend en photo, ça permet de reconnaître. Je ne suis pas sûr que tous ces insectes soient des pollinisateurs. C'est là où il faudra faire le tri, parce qu'il y a des insectes qui ne sont pas pollinisateurs. Tous les insectes, je pense que Bernard Vessière me confirmera cela, ne sont pas des pollinisateurs.
Ouais. En tout cas, l'initiative est intéressante. Moi, je propose aux auditeurs de se rendre tout de suite sur le site spipol.fr, tu me précédais bien sûr de www. C'est une initiative que je voulais saluer et citer. Pourquoi pas, tout le monde peut agir, même s'il s'agit de tout petits gestes, de prendre en photo des abeilles. On va faire une petite pause. Je voudrais qu'on écoute un extrait qui vous permettra, là encore, d'alimenter notre débat. Il s'agit de Myriam Frazier, qui est interviewée donc, dans votre documentaire, Christine Le Goff. On l'entend, elle est donc américaine, malgré son nom, elle est américaine. Vous pourriez me rappeler sa fonction, pardon, excusez-moi.
Elle est entomologue.
C'est-à-dire
entomologiste, d'ailleurs, je fais une...
Oui,
c'est-à-dire qu'elle...
Elle étudie les insectes.
Voilà, exactement.
Merci Bernard. Voilà.
Et en particulier, la relation des pesticides aux abeilles.
Merci de le signaler. Donc voilà, on met le doigt sur notre problème pesticides, ce qui va nous permettre d'alimenter notre débat. On écoute un extrait donc, de ce documentaire disponible en DVD.
So the struggle in the beginning was... Au début, nos questions étaient, retrouve-t-on tous ces pesticides dans la ruche, dans la nourriture des abeilles, dans la cire qu'elles fabriquent ? La réponse est oui. Oui, ils sont dans la ruche. Dans certains échantillons de pollen, nous avons retrouvé jusqu'à 31 pesticides différents. En moyenne, nous en avons trouvé 6 par échantillon. En fait, les abeilles sont de très bonnes sentinelles de l'environnement. Elles attrapent à peu près tout ce qui se trouve dehors. Nous avons tendance à penser que les pesticides que nous disséminons dans la nature disparaissent. Et de toute évidence, c'est faux.
Alors, parlons des pesticides. Je voudrais tout de même, avant de vous faire intervenir, vous citer le mail que j'ai reçu ce matin même de la part de Jean-Charles Bocquet, qui est donc le directeur général de l'Union des industries de la protection des plantes, qui nous écoute très régulièrement. Et c'est vrai qu'à chaque fois que nous parlons du pesticide, Jean-Charles Bocquet nous envoie des petits mails. Donc là, il nous précise que les difficultés de la filière apicole sont réelles. Voilà les termes de son mail. Les origines multifactorielles du mauvais état des ruchers incitent à la recherche de solutions collectives impliquant les apiculteurs professionnels, les agriculteurs, les industriels, de la protection des plantes, du médicament vétérinaire et les autorités gouvernementales. L'heure est à la mutualisation des efforts. Henri Clément, c'est une manière de dire que... main dans la main, même avec les industriels des pesticides, on va s'en sortir ?
Je ne le crois pas, je suis désolé. Non, multifactoriel ne veut pas dire tellement compliqué qu'on n'y trouvera pas ses petits et qu'on ne prend pas des décisions. Je pense qu'il est grand temps qu'on prenne des décisions. On connaît beaucoup mieux la question de la disparition des abeilles. Tout n'est pas trouvé, c'est évident, mais on en connaît beaucoup plus. Et donc maintenant, ce sont de vraies décisions qui sont attendues par les apiculteurs.
Alors décision, par exemple, interdire certains pesticides. Pour le gaucho, par exemple, ça a été possible. Pour le cruiser, ça ne l'a pas été.
C'est-à-dire que la France a été précurseur dans les années 99-2005. Et d'ailleurs, on était observé par le monde entier. Et il faut rendre hommage aux ministres de l'agriculture successifs, Jean Glavany, Guémard, Bussereau, qui ont retiré le gaucho sur tournesol, puis sur maïs. Ça n'a pas été simple. Il a fallu qu'on fasse une action en Conseil d'État deux fois, qu'on gagne deux fois pour qu'ils arrivent à retirer ces produits. Le régent également. Et depuis 2005, la France, qui était précurseur, a perdu cette avance. Et ce sont d'autres pays qui ont pris le relais, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, qui viennent de retirer un produit... qui tuait les abeilles également.
Mais pour répondre précisément à ce qu'on vient de dire, est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'en France, on utilise moins de pesticides ? Partout dans le monde, il faudrait qu'on utilise moins de pesticides ?
Ce qui est essentiel, ce sont les procédures d'homologation. on s'aperçoit bien que les procédures d'homologation ne sont pas suffisamment rigoureuses pour éviter les problèmes qu'on a pu observer avec Gauchot, Régent, etc. Mmh. D'ailleurs, comme le disait une ancienne directrice du GNEVA qui est devenue AFSA, si la directive européenne 91-414 avait été appliquée, ni Gauchot ni Régent n'auraient dû être autorisés.
Bernard Vassière, je veux bien voir votre avis. On a entendu donc cet extrait du documentaire où on entend qu'on retrouve parfois jusqu'à 31 pesticides au sein même d'une ruche. Mmh. Donc on voit bien que les abeilles transportent ces pesticides, malheureusement. Est-ce que vous pensez, je vous pose la même question, qu'il faudrait aujourd'hui qu'on utilise moins de pesticides ?
Écoutez, je ne suis pas toxicologue. Hein, les collègues qui travaillent sur les pesticides, les toxicologistes. Mmh. Au niveau des pesticides, ce qui est clair, c'est qu'il y a une initiative en France pour réduire considérablement l'usage des pesticides. Donc je pense que ça rentre dans un cadre plus général de sauvegarde de la biodiversité, au-delà des abeilles. Oui, bien sûr, tout le monde est d'accord qu'il faudrait réduire les pesticides. Ceci dit, les pesticides sont dans les causes que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors ça peut paraître bizarre qu'on garde j'ai accepté de dire qu'on gardait du mystère dans le déclin des abeilles alors que les causes principales sont quand même connues. C'est le scénario en fait qu'on ne connaît pas exactement. Et au niveau de ce scénario, j'ai des collègues à Avignon, Yves Lecomte et Cédric Allot, qui ont sorti une publication très récemment où ils ont montré que l'interaction de l'imidacloprid, donc de la matière active du gaucho, avec Nosema, donc le microsporidien, le champignon, avait en fait cette interaction est extrêmement létale pour les abeilles. Il y avait en fait une synergie entre ces deux facteurs de stress. Et donc c'est vers ça que l'on s'oriente. Donc oui, une agriculture avec moins de pesticides, ça devient extrêmement important. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'en fait on a changé de système. Et ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde dans le public qui le réalise.
Changer de système, c'est-à-dire ?
Changer de système, ça veut dire que vous traversez les campagnes, vous ne voyez plus ces épandeurs très, très importants qui sont sur les cultures, parce qu'on utilise des insecticides systémiques, c'est-à-dire qu'ils se répandent dans l'ensemble de la plante, via la sève. Et ces insecticides sont suffisamment puissants pour qu'un enrobage, les quelques milligrammes ou moins que l'on dépose sur une graine avec son enrobage, suffise à contaminer l'ensemble de la plante, enfin à affecter l'ensemble de la plante, pour tuer des insectes qu'avant on avait beaucoup de mal à tuer, comme les insectes piqueurs-suceurs, c'est-à-dire les pucerons, les mouches blanches en particulier. Donc ces insecticides se retrouvent dans l'ensemble de la plante, et pas de chance, ils se retrouvent, alors dans le nectar, ça c'est un peu prévisible puisqu'ils traversent la sève et le nectar est une sécrétion à partir de la sève, mais ils se retrouvent aussi dans le pollen. Et donc on a les aliments en fait des abeilles, les aliments principaux, le nectar et le pollen, qui se retrouvent contaminés. Et là ça veut dire que toutes les abeilles sont exposées à une nourriture contaminée depuis la naissance de la larve jusqu'à l'éclosion de l'adulte. Et donc on change complètement le système, c'est pas une intoxication, un coup, c'est une intoxication vraiment sur toute la durée de la vie.
Réaction des auditeurs au 01 45 24 7000. On les prendra d'ailleurs tout à l'heure en ligne directement, mais je vous cite quelques messages qui nous arrivent en ce moment même. Hein. Les auditeurs réagissent. Nous avons par exemple Mona qui est en Bretagne qui nous dit carrément « Ce documentaire m'a fait pleurer. Je comprends mieux le combat contre les OGM et je constate également que mon jardin en campagne, bien que très fleuri, est moins visité par les abeilles et pourtant je n'utilise aucun désherbant ni autre produit chimique. » Sophie également à Paris dans le 12e nous fait cette remarque qui n'est pas inintéressante. Dans ma jardinière, j'essaye de planter des fleurs qui attirent les abeilles. Je pense qu'on devrait mettre des étiquettes sur les fleurs pour sensibiliser les gens, c'est-à-dire peut-être acheter un certain type de fleurs plutôt que d'autres. Voilà une proposition de Sophie. Et puis il y a également cette remarque très pessimiste de Nicolas qui est à Bruxelles. Malgré nos efforts tardifs d'humains, dans 20 ans, les abeilles auront bel et bien disparu totalement, sauf dans certains zoos ou certains laboratoires. Alors on s'en sort comment ? On a quoi comme option pour polliniser ? Bonne journée de butinage, nous dit-il. Eh bien, il y a des solutions, Nicolas. Continuez de nous écouter. On va vous parler justement de ces manières d'agir. On fait une petite pause en écoutant un acteur qui était dans un film de François Ozon il y a peu. Il s'appelle Louis Renan, choisi acteur aujourd'hui, mais il a démarré la musique à l'âge de 14 ans. On l'écoute.
Isabelle Giordano. 01 45 24 7000
20h04 et j'ouvre le tiroir de droite. Était-ce hier ou demain j'ouvrirai d'une claque la porte au fond du couloir blanc opaque. 20h04 12h et moins un quart. Dernier vu d'ici, tout semble aller jusqu'à l'infini. Un veilleur de nuit s'éveille et s'oublie. L'homme de cire expire la fumée d'une cigarette blonde. L'homme de cire, le type ex à ses ongles. L'homme de cire caresse la nuque de sa petite map monde. L'homme de cire qu'on écoute à la ronde. 20h04. Entre quatre murs et quatre plaques, là où tout n'est plus vraiment, là où tout s'en va, se détraque, dans la mécanique des tic-tic-tac. 20h04, évaporé dans une flaque, peut-être irai-je droit au paradis, mais j'irai. Le cœur coincé, désarticulé au bord d'un lac. L'homme de cire expire la fumée d'une cigarette blonde. L'homme de cire, le type ex à ses ongles. L'homme de cire caresse la nuque de sa petite map monde. L'homme de cire.
Voilà, il s'appelle Louis Renan Choisy. Nous continuons notre débat autour de la disparition programmée des abeilles. Programmée, mais on peut agir, bien sûr. Jacqueline dans le Vaucluse nous appelle pour nous dire l'émission dont vous parlez sur Arte repasse cet après-midi à 14h45. Merci Jacqueline du renseignement. Je pense qu'on peut la voir également, peut-être, j'imagine, sur le site d'Arte, mais tout simplement en DVD également, disponible à partir d'aujourd'hui. Il est dans le commerce, vous le trouverez partout. Oui.
Et oui, et puis sur Arte plus 7, nous permet de le regarder encore pendant une semaine.
J'ai une personne de Château-Renard, Jacques, qui nous dit « Arrêtez de dire que les abeilles vivent mieux en ville qu'à la campagne. Elles font un miel plein de poussière. » Henri Clément, vous contestez.
Oui, totalement. Oui, déjà, le miel plein de poussière, ça laisse songeur. Mais en fait, on s'aperçoit que le miel de ville est aussi pur que... Par contre, ce qui est vrai...
Il y a même un miel qui s'appelle miel béton, fabriqué à Paris.
Oui, tout à fait. Par contre, ce qui est vrai, c'est que notre opération Abeilles Sentinelles que nous avons lancée à l'Union Nationale pour... que les pouvoirs publics prennent des décisions, c'est une sonnette d'alarme. L'avenir de l'apiculture n'est pas en ville. C'est sur l'ensemble du territoire qu'on a besoin d'abeilles.
Bien sûr. Un petit mot encore de Valérie à Angers. Oui, Bernard Vessière.
Sachez qu'à Lyon, il y a un gros programme européen Life qui s'appelle Urban Bees, qui a démarré cette année sur la biodiversité des abeilles sauvages en ville pour utiliser justement ces abeilles pour sensibiliser la population urbaine à la biodiversité et à l'importance des relations entre les organismes, en particulier entre les plantes et les insectes.
Merci.
C'est
Bernard.
Urban Bees à Lyon.
Très bien. Alors je passe la parole maintenant, on continue de voyager, on fait le tour de France, on part en Charente avec Philippe qui est agriculteur, qui était en train de nous écouter, qui voulait prendre la parole, pardon. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bonjour. Agriculteur, oui. Qu'est-ce que vous faites?
Alors,
d'ailleurs,
je suis un paysan en tête de rotation, mais viticulteur pour le Pinot des Charentes, céréalier pour des semences, et puis éleveur, et puis propriétaire de gîtes ruraux et d'étangs.
Oh là, mais vous faites plein de choses.
Terme, voilà.
Plein de choses.
Paysage, voilà.
Très bien. Alors
je
vous avez...
Je ne connais pas le terme, comment dire... Exploitant agricole, quoi. C'est trop péjoratif. Quoi.
C'est trop péjoratif, exploitant agricole.
Oui, c'est devenu péjoratif. On a eu des Trente Glorieuses à assumer. Bon, maintenant, on peut des pots cassés, quoi.
En tout cas, vous vouliez faire passer un message ce matin. Vous vouliez nous dire que vous aviez besoin des apiculteurs.
En vigne, par exemple, on avait une très grande biodiversité de petites fleurs dans les vignes. Et on faisait de la confusion sexuelle pour ne pas déranger des insectes. Et cette chose-là nous coûtait très cher, mais on était très clean au niveau de l'environnement. Mmh. Et puis, ben, un bio nous a ramené avec la flavescence dorée. Maintenant, on est obligé de faire des insectes qui servent bon marché, mais qui détruisent tout. Donc, voilà. En résumé, ce où on peut arriver. Et puis après, en semences, on fait des semences de tournesol, de colza. Et là, il nous faut des abeilles pour polliniser. Sinon, on ne produit rien du tout.
Sinon, il n'y a pas de tournesol, il n'y a pas de colza.
Il n'y a pas de tournesol, il n'y a plus de carburant pour mettre dans les réservoirs. Il n'y a plus rien du tout.
C'est bien expliqué. Hein. Merci, Philippe. Hein, voilà. Oui.
Donc, ce qui fait que tous les matins, les filles crapahutent dans les tournesols pour sélectionner des fleurs que l'on ne veut pas. Donc, elles le font à l'horreur. Sinon, à 9h, les abeilles embauchent. Et puis là, il faut décamper. Hein. Et à 10h, c'est les contrôleurs qui arrivent. Contrôleurs des multinationales. Je vous laisse imaginer lesquels. Hein. Puisque les semenciers et les semences, maintenant, appartiennent en propriété génétique au plus grand groupe industriel de la planète.
Alors, ça devient très technique. Hein. Moi, je me tourne vers Henri Clément, qui est apiculteur. Que pensez-vous de l'action, de l'initiative là, de Philippe ?
Ben, ce que je crois surtout, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le monde agricole n'a pas toujours le choix des semences qu'il emploie. Et ça, c'est quand même dramatique. Parce qu'en fait...
On se bat pour avoir des semences fermières. Je me bats pour certaines cultures, tout ce qui n'a pas été verrouillé en propriété génétique. On se bat pour conserver des semences.
Et vous avez raison.
De vieilles variétés, mais à côté de ça, mon gagne-pain, certes, c'est des multinationales pour lesquelles on multiplie les semences qu'il va falloir pour alimenter des usines. Mmh. Donc j'ai le cul entre deux chaises. À côté de ça, il y a des alternatives. Au début, on les avait gratuitement. Maintenant, il faut faire venir des ruchers parce que, bon, j'avais des bases, par exemple, c'est des semences qui sont des antéantées semences, il y a trois ans de ça. Et on devait m'amener 40 truches le lundi matin. Le gars était dans son rucher, il m'en a ramené 4. Toutes les autres étaient crevées du varroa, quoi. Mmh. Et puis, c'est partout pareil. Par contre, eh bien, je sème des semences, mais à côté, je vais semer de la facélie. Au bout de 35 jours, vous avez des fleurs. J'ai planté 600 arbres pollinisateurs, du moins un peu de mellifères, avec de l'acacia. Vous pouvez faire des beignets avec des acacias, mais les abeilles ont besoin de beignets, elles bouffent directement. C'est du châtaignier, il faut une biodiversité tout autour.
Très bien, merci Philippe. En tout cas, je crois qu'on a compris l'essentiel de votre message. Vous avez besoin, en tant qu'agriculteur, de ces apiculteurs et de ces abeilles. Je voudrais enchaîner tout de suite et passer la parole à un autre auditeur qui patiente. Il s'appelle Gilles. Vous nous appelez de Salbris, où est-ce ?
Salbris, oui, dans le bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Oui, Salbris, région centre.
Très bien. Vous vouliez prendre la parole ? Vous avez un conseil peut-être à nous faire partager ?
Bah, écoutez, un conseil, oui, c'est vis-à-vis de les émissions d'Alain Baraton que tous les week-ends.
Oui.
J'avais entendu lors d'une de ses émissions un conseil fort judicieux, car il a toujours des conseils excellents, ce monsieur. Entre parenthèses, je pense qu'il y a aussi un gros problème vis-à-vis des particuliers. Je referme la parenthèse. Il avait dit que lorsqu'on tond son jardin, faut penser à laisser environ 10% de la surface totale en friche, entre guillemets. Mm-hmm. Je m'explique. On améliore comme ça une forme de biodiversité. Et je me suis aperçu que, effectivement, j'ai énormément d'abeilles qui viennent chez moi en laissant toute une quantité de petites fleurs sauvages qui, pour certains, sont peut-être pas très décoratives. Mais moi, je me suis aperçu qu'en fin de compte, j'ai des insectes, j'ai des oiseaux.
Donc laisser la pelouse et le jardin en partie non tondu, voilà un bon conseil qu'on peut donner pour faire revenir les abeilles. Merci beaucoup Gilles de nous avoir fait partager ce conseil donné par Alain Baraton. Et j'en profite d'ailleurs pour signaler qu'il y a 2-3 auditeurs qui nous disent que leur mairie, leur commune, bien souvent, n'applique pas ce principe. Hein, et on tond les pelouses aura. Et on devrait aussi, là encore, dans les mairies, mais avoir ce type de réflexe. Hein,
par exemple, nous, les partenaires du programme Abeilles Sentinelles, justement, font un gros effort. Ils ont supprimé les pesticides dans leur commune. Ils ont mis des plantes perpétuelles pour éviter d'avoir à les replanter, etc. Et des plantes mellifères et des plantes qui sont intéressantes pour les pollinisateurs. Donc je crois que ce sont des petits gestes, mais qui vont dans le bon sens. Par contre, l'agriculture a besoin d'évoluer véritablement. rien que le maïs, où on a un gros problème avec la cicadelle du maïs, eh bien, pour arriver à faire entendre qu'il fallait faire de la rotation, alors qu'on sait que c'est la meilleure solution agronomique, il a fallu plusieurs années et ce n'est pas fini. Et au lieu de faire simplement du maïs, du colza, du tournesol, il serait peut-être grand temps de multiplier la diversité des cultures.
Lin, luzerne, vous pensez à cela ?
Sainfoin, etc. Mm-hmm. On importe du tourteau de soja du Brésil, ce serait peut-être bien de produire. L'INRA même le reconnaît.
Alors écoutez, justement, c'est l'année de la biodiversité. Il y a pas mal de manifestations qui sont organisées partout en France. Vous-même, hein, vous êtes à l'initiative des Journées nationales de l'abeille, sentinelle de l'environnement.
Oui.
On peut se regarder d'ailleurs.
Juin, oui.
Voilà, on peut regarder tout ça sur votre site internet de l'UNAF. Et j'imagine que vous en profiterez peut-être pour discuter justement avec le monde des agriculteurs.
Ah, mais je suis aussi agriculteur, je suis même secrétaire d'une chambre d'agriculture.
Ah, bah alors vous êtes bien placé pour faire avancer les négociations. Alors moi, je vous propose de faire un petit tour maintenant dans le Bordelais, à Côte de Blaye. Troisième génération d'apiculteurs. Je vous présente Patrice et Yves Amblard, apiculteurs, donc de père en fils. Ils sont donc comme des milliers d'agriculteurs, hein, on l'a dit, des milliers d'apiculteurs, pardon, en France. Ils sont face à cette disparition d'abeilles. Thomas Chauvineau les a rencontrés et a discuté avec eux.
Bon, on ouvre.
Allez, c'est parti.
Vous voyez devant la ruche, là, toutes les abeilles mortes. Ça correspond au dernier traitement qu'ils ont fait sur les vignes.
Ah oui, il y en a. C'est difficile de compter.
Il y en a une centaine, 150.
Mais on a vu pire. Hein. On a vu ce qui correspondait à un seau de 10-15 litres d'abeilles mortes devant les ruches. En un jour ou deux.
À cause de quoi ?
De traitement fait par des voisins.
Et là, quand on regarde un essaim comme celui qu'on regarde, là, est-ce que vous avez l'impression que les abeilles, elles sont moins...
Moins punchy qu'avant.
Elles ont moins de punch qu'avant, oui.
Elles mettent beaucoup plus de temps pour se développer. Ouais.
Comment ça ?
Maintenant, on arrive à avoir des ruches en début de saison qui sont tellement affaiblies, que ce soit le frelon, que ce soit les produits, que ce soit le varroa, que ce soit... Enfin, voilà, tous les facteurs qui font qu'elles sont quand même bien affaiblies.
C'est le varroa, c'est quoi ?
Les varroa, c'est un acarien qui est arrivé d'Asie du Sud-Est et qui s'est introduit dans les ruches il y a 20-30 ans bientôt. Et c'est cet acarien, les abeilles n'ont toujours pas trouvé le moyen de s'en débarrasser. Enfin, quelques-unes ont commencé à développer, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme toute résistance naturelle, ça se fait au fil des décennies.
Et le frelon, vous avez vu ça ici ?
Ah oui, bien sûr.
Je vous montrerai les pièges partout autour, là, tout à l'heure. Vous allez voir le nombre de frelons qu'il y a à l'intérieur. Et encore, j'y suis passé tout à l'heure pour un peu vider. Là.
Ok, donc là, on se déplace un peu, on s'éloigne un peu des ruches, on arrive un peu dans la forêt.
Voilà. Oui. Là, en fin de compte, il y a peut-être 1, 2, 3, 4, 5...
C'est à l'ancienne, hein, c'est une bouteille d'eau coupée en deux avec...
C'est le piège à frelons. Hein, donc c'est sucre, bière et... C'est scotché, tout simplement, et puis...
Et le frelon rentre dedans. c'est ces gros trucs...
Ouais, ces gros trucs, là. Et là, vous voyez...
Ça fait 3, 4 centimètres,
à
l'aise.
Ah oui, là, vous voyez, il y a une dizaine de pièges ici, et il y a en moyenne 10-20 frelons par piège, quoi.
Ça fait des nids énormes, ça fait des milliers de frelons à nourrir, et les frelons viennent devant les ruches et prennent les abeilles qui arrivent, qui sont gorgées de nectar, donc ils les dissèquent. Ils prennent le nectar, ils laissent tomber l'abeille, évidemment. Ils ne mangent pas vraiment l'abeille. Ce qui les intéresse, c'est le nectar.
Donc là, on est obligé de déménager carrément, sortir les ruches. Sinon, en une semaine, ils sont capables de manger toutes les abeilles. Quoi. Vous voyez les mandibules ? Ils arrivent à découper les abeilles, hein, découper les têtes, découper les abdomens. Hein. Puis ceux-là, quand ils attaquent, ils s'y mettent en bande. Hein. Moi, j'ai même eu un témoignage là, d'un pompier là, qui sont intervenus il n'y a pas tellement longtemps là, sur un gros nid. Ils étaient dans le camion, et bien, ils étaient bien contents d'être dans le camion à la fin, hein, parce que ça tapait de partout dans le camion. Quoi. Et mais ils ont roulé des kilomètres et des kilomètres, et il y avait toujours les frelons derrière. Hein. Et ça tapait, hein, ils s'éclataient sur le pare-brise et tout, hein, ils voulaient vraiment... Hein. Mais notre frelon européen, il est beaucoup plus pacifique. Hein. Ceux-là, là, c'est des fous. Hein.
Là, il y en a beaucoup, là. Hein.
Là, c'est un peu plus gros, ouais.
Il y en a combien, là ?
Ah ben, on va voir, on va ouvrir.
Voilà, vous soulevez le couvercle là.
Vous voyez là, regardez.
Et celle qui est posée sur ma joue là, faut pas que je bouge, c'est ça ?
Non, vous inquiétez pas.
Ah, là, il y a du miel. Je vais juste enregistrer le bruit que ça fait alors.
Bah, allez-y, dedans quand même.
Ce qui est drôle, c'est que Avant, ça allait tout seul, quoi. Maintenant, on est toujours en train de s'en occuper. On est toujours obligé de les aider. C'est extraordinaire. Quel changement en 40 ans.
Voilà, et merci donc à la famille Amblard d'avoir répondu aux questions de Thomas Chauvineau. On va goûter leur miel, hein, qui a l'air délicieux. Ce bruit des abeilles, effectivement, nous alerte sur l'état de notre société, l'état de notre monde. C'est tout l'enjeu de ce documentaire dont nous parlons ce matin. Et puis bien sûr, hein, moi j'ai vraiment envie qu'on insiste sur les manières d'agir. Il y en a beaucoup, hein, on a un petit peu dit qu'on pouvait utiliser moins de pesticides. Mmh. Moi je vous suggère également 2-3 idées de nos auditeurs. J'ai Brice par exemple qui nous dit qu'il a lui-même envie d'installer une ruche dans son jardin avec l'idée de lutter contre la disparition des abeilles. Est-ce que cela aiderait vraiment la cause? Installer soi-même une ruche personnelle, ça se fait, j'ai l'impression, de plus en
c'est-à-dire
plus.
Qu'en fait,
est-ce que c'est vraiment une bonne idée, ça?
Il y a de plus en plus de gens qui s'initient à l'apiculture et c'est très bien parce qu'on a une baisse du nombre de producteurs qui est considérable. On était 100 000 apiculteurs il y a 25 ans, 85 000 en 95, 70 000 en 2005. Donc une érosion de la population d'apiculteurs parce qu'avant, dans chaque ferme, il y avait des ruches. Maintenant, ça, c'est en train de disparaître. Et c'est très bien que les gens s'initient à l'apiculture. Par
contre, c'est pas dangereux, dites-moi.
Non, c'est pas dangereux.
Une ruche sur le balcon?
Non, simplement, il faut prendre des précautions, il faut avoir une formation, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc, il y a des formations partout qui peuvent permettre d'appréhender ce travail, qui est très fascinant.
Autre solution également, hein, un petit geste au quotidien, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, mettre dans son jardin des fleurs particulières qui attirent les abeilles. Vous m'avez cité tout à l'heure hors antenne le nom d'un petit ouvrage, un petit livre qui est publié par l'UNAF, vous-même, donc des plantes utiles aux abeilles.
Oui. Donc, bien c'est sûr, un ouvrage technique, mais très très bien fait, où il y a les différentes espèces avec la hauteur à laquelle elles parviennent, la nature du sol, la couleur, si elles apportent du pollen, du nectar, de la propolis, etc.
Donc on peut se procurer cet ouvrage, mais je voudrais d'emblée poser la question également à notre spécialiste de l'INRA, Bernard Vessière. Est-ce que vous pourriez nous citer peut-être 2-3 plantes qui attirent particulièrement les abeilles?
Je ne veux pas vous parler des plantes spécifiquement mellifères ou pollinifères par rapport à l'abeille domestique. Je suis désolé, j'essaye d'enfoncer le clou quand même parce que les abeilles sauvages n'ont pas beaucoup de représentants en fait en France. Mais je suis extrêmement intéressé, enfin votre auditeur qui a mentionné l'idée de laisser une partie de son jardin ou de sa pelouse en surface sauvage, c'est effectivement quelque chose que l'on recommande, parce que si ça se fait sur la durée, bon, la première année, vous risquez d'avoir des choses pas très agréables, comme le chien d'en. Bon, en général, ces surfaces doivent être fauchées une fois à l'automne, mais au bout de quelques années, vous allez avoir des plantes pérennes, celles auxquelles faisait référence Henri Clément, et ces plantes pérennes, comme la centaurée, comme la gueule de loup, sont des plantes qui vont fournir du nectar et du pollen aux abeilles domestiques et aussi à tout le cortège des abeilles sauvages. Pensez que ces abeilles sauvages, elles sont en activité pendant 3 semaines, et elles n'ont pas de moyens de stockage de ressources. Il n'y a pas de miel, il n'y a pas de pain d'abeille comme les abeilles domestiques stockent le pollen.
On a beaucoup...
Donc effectivement, planter des fleurs pour assurer des ressources alimentaires aux abeilles, c'est essentiel.
Très bien, parce que je voulais vous signaler hein, que nous avons beaucoup d'appels d'auditeurs et d'auditrices. Par exemple, j'ai encore Jackie là, qui nous envoie un mail pour nous dire qu'est-ce que je peux faire en tant que citoyenne pour aider les abeilles. Hein. Donc Bernard Vessière, vous auriez peut-être un dernier conseil à nous faire partager?
1 mètre carré dans votre jardin que vous laissez de côté, que vous tondez juste une fois à l'automne. Voilà. C'est un petit geste citoyen pour tous les gens qui ont des jardins. Et c'est vrai qu'au niveau, si ce geste est repris au niveau des communes, pour tous les terrains vagues, par exemple, au niveau des bords de route, c'est dans les Côtes d'Armor, ils ont engagé un gros programme pour réduire la fréquence de fauche des bords de route. Et ils ont une biodiversité végétale qui revient, qui est extraordinaire. Il y a des orchidées qui reviennent au bord des routes.
C'est déjà une première chose.
La biodiversité des abeilles est très liée à la biodiversité de la flore. Un dernier point, rappelons-nous quand même que les fleurs donnent des ressources, donc fournissent des ressources aux insectes pollinisateurs, nectar et pollen, mais une grande partie des insectes qui visitent les fleurs ne sont pas des pollinisateurs. Donc quand vous allez voir des insectes dans les fleurs, ça n'est pas forcément des pollinisateurs, mais les pollinisateurs essentiels, pour 4 grandes raisons, sont des abeilles.
Nous avons également évoqué la prise de conscience des politiques. On le voit bien dans votre documentaire, Christine Le Goff. Est-ce que là encore, on pourrait peut-être faire quelques propositions très concrètes? Henri Clément, vous me disiez également tout à l'heure les politiques en France ne se sont pas toujours très bien comportés. Ils n'ont pas toujours eu le comportement adéquat.
Mais c'est-à-dire que les politiques, effectivement, ont relayé nos interrogations au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, etc. Sur le local, je dirais qu'il y a des avancées. Aujourd'hui, notamment grâce à notre programme Abeilles et Sentinelles, effectivement, les politiques ont mieux découvert ce qu'étaient les apiculteurs. Ils avaient une vision qui était un peu éthérée par rapport à la réalité. Par contre, ce qui manque vraiment, ce sont des décisions politiques fortes Et c'est ce que nous attendons, et il ne faut pas que ce soit trop tard. La situation n'est pas irréversible aujourd'hui, mais ces solutions, ces décisions politiques, c'est en matière d'homologation des produits phytosanitaires, en matière d'orientation de l'agriculture, ce sont des éléments essentiels. Et en fait, l'abeille, ce qui est fascinant avec l'abeille, c'est qu'elle pose les vraies questions de l'avenir de notre société, de notre environnement, pour demain, au-delà du miel, bien sûr. Quelle agriculture, quel environnement, ce sont des questions essentielles.
Et cette suggestion de Philippe qui nous dit que les apiculteurs feraient bien également d'arrêter d'accuser tout le monde et pas eux-mêmes. Ils oublient, nous dit-il, de préciser que les apiculteurs eux-mêmes jouent aux apprentis sorciers en introduisant des espèces étrangères.
Oui,
alors est-ce qu'il faut balayer devant sa porte alors ?
Je pense qu'il faut balayer devant sa porte. Je pense qu'il faut s'interroger sur comment va évoluer l'apiculture. J'espère qu'elle n'évoluera pas dans le sens qu'on voit souvent trop, en tout cas aux États-Unis. Ce n'est pas fascinant du tout, mais notamment dans le film, on le voit très bien. Mais les apiculteurs, quand même, dépendent de l'environnement dans lequel les abeilles vivent. Et cet environnement, ils y sont très peu responsables. Effectivement. Mmh.
Christine Le Goff, c'est à vous que reviendra le mot de la fin, hein, puisque dans un petit instant, on va aborder un autre sujet, mais qui est également un sujet qui intéresse nos auditeurs et qui concerne l'environnement. C'est la qualité de l'eau du robinet. Mais je voudrais vous laisser conclure hein, sur ce sujet. Vous nous aviez dit que oui. Vous aussi, hein, vous prenez des photos. Est-ce que, voilà,
ça prends des photos. Je suis en train de réfléchir à mettre une ruche, absolument. Mais je crois que profondément, quand on a voulu faire ce film, on a voulu, au travers des abeilles, s'interroger sur l'avenir de l'homme. Mmh. Et je crois que c'est peut-être pour ça que le film a reçu autant d'échos. C'est qu'en fait, au final, c'est de nous-mêmes que nous sommes en train de parler et de ce que du monde dans lequel nous voulons vivre et dans lequel et le monde que nous voulons laisser à nos enfants.
Et je précise hein, que ce documentaire, vous l'avez réalisé un peu partout dans le monde. Hein. 18 mois de tournage, vous êtes beaucoup, beaucoup baladé, notamment aux États-Unis. Et pas seulement, hein, un peu partout en Europe.
Absolument. Et d'ailleurs, le mot de la fin du film revient à un apiculteur en Écosse, Willie Robson, qui est un personnage tout à fait extraordinaire et qui n'est pas du tout un rêveur, qui est en fait très pragmatique et qui, lui, justement, pratique une apiculture, je dirais peut-être à l'ancienne, mais en tout cas, qui prend en compte totalement la résistance et la vie des abeilles.
Documentaire passionnant, DVD disponible chez Arte. Il est signé Marc Daniels. Merci à vous, Christine Le Goff. Et puis un petit salut aussi à notre consoeur Stéphanie Duncan, hein, puisque c'est elle qui signe aussi la voix française de ce documentaire. Merci à vous, Henri Clément.
Merci.
Pour
merci.
L'UNAF, on va rester donc très attentif à votre activité, à votre action économique, politique. Hein, on a bien compris tous les enjeux. Et je remercie également Bernard Vessière pour l'INRA. Et je salue également les techniciens de France Bleu Vaucluse à Avignon.
Merci à vous.
Bonne journée à vous, Bernard. On fait une petite pause avec ça. Salif Keita, dans un instant, on vous donne des informations très importantes sur la qualité de l'eau du robinet.
Sobara la yonte Kasene ke la ba manyika Oluye fa sobara la yonte Kafoli ke la ba luyinka Olile foli minka danyante Abe chante salifu tu babu be chante na Hene madobe yolo
Ekolo d'amour, mon amour
Ma guitar
Pissego l'amour
Achola
l'amour
Siki musunyika oluye kela sigira yonte kajeli ke korobalu nyika olile dunya robena nyonte madon kela
I love you.
bolon folelo halele bolon folelo hariye jamani bolon folabedi ayonte koni folelo alele koni folelo maru jamani tuma folabedi ayonte tuma folelo halele tuma folelo solo ayonte tuma folelo do ayonte tuma folelo alele tuma folete abe chante salifu tu babu be chante enne ma dogelo.
Salif Keita, c'est sa manière à lui d'être écolo. Voilà, ça met de la bonne humeur, un peu de gaieté sur l'antenne de France Inter. Nous poursuivons donc nos discussions autour de l'environnement et des menaces, malheureusement, avec l'eau du robinet. Un documentaire a été diffusé il y a peu sur France 3 cette semaine. Et effectivement, les informations n'étaient pas très réjouissantes. Avec nous, Pascal Senti, pour y voir un petit peu plus clair. Un article publié dans Le Monde cet après-midi. Bonjour Pascal.
Bonjour Isabelle.
Un article parce que le ministère de la Santé vient de commander un rapport, hein, c'est cela, sur la présence éventuelle de résidus de médicaments. C'est assez inquiétant tout ça, non ?
Oui. Alors, c'est Didier Houssin, le directeur général de la Santé, qui l'a annoncé en disant que même si les doses sont homéopathiques, il faut lancer une étude pour savoir quelles sont les quantités présentes qui pourraient être présentes dans l'eau du robinet et quels sont les effets possibles sur la santé.
Mmh. Alors qu'est-ce qu'on trouve exactement comme résidu ? Qu'est-ce qu'on trouve dans l'eau du robinet quand on l'examine au microscope ?
Alors on trouve, ce qu'a montré d'ailleurs Sophie Le Gall dans son documentaire sur France 3, on trouve des résidus de pesticides et de nitrate, ça c'est pas nouveau, de l'aluminium, du radon et des résidus de médicaments. Souvent on trouve des résidus d'antidépresseurs, d'antidouleurs, de stroprogestatifs, etc.
Alors vous l'avez bien dit Pascal, est-ce que tout cela est dangereux ? On ne sait pas très bien si les quantités peuvent avoir des conséquences sur notre santé. Quelle eau boire finalement ? C'est la question que vous posez dans votre article, oui. Cet après-midi.
C'est la question. Alors, les autorités sont rassurantes en disant que l'eau du robinet est potable.
Mmh. Et vous dites même que la ville de Lyon a fait de la publicité aussi autour de son eau du robinet.
En lançant une marque Grand Eau.
Mmh. Ouais. Donc c'est une manière de rassurer les consommateurs.
Tout à fait, en disant que l'eau du robinet est potable, voire que l'eau en bouteille est bonne évidemment, mais que l'eau du robinet est tout à fait consommable, sauf dans certaines régions.
Pas de panique. On attend donc les résultats de cette enquête, ce rapport publié par le ministère de la Santé. Vous évoquez tout de même les bouteilles en plastique, les carafes filtrantes. Ces carafes ont-elles une réelle utilité ?
Alors, on ne sait pas, parce qu'il y a des cartouches au sel d'argent et des cartouches qui peuvent rejeter les particules qu'elles filtrent. Et surtout, il faut bien les utiliser, les changer régulièrement.
Voilà, très vigilant sur le changement des cartouches. Et puis, question également sur le plastique des bouteilles. Décidément, ça fait beaucoup d'interrogations. Mais effectivement, comme vous le dites très bien, il faut quand même attendre la publication de ces rapports pour se faire un avis définitif. Merci à vous, Pascal Senti. Merci beaucoup d'être intervenu. Donc, cet article publié cet après-midi dans Le Monde. Voilà, merci beaucoup. Merci encore aux auditeurs de France Inter. Vous avez été une fois de plus, très nombreux à prendre la parole sur toutes ces questions écologiques. On voit bien votre intérêt pour cela. Merci à vous. Et dans un petit instant, je laisse ma place au Fou du Roi et à toute son équipe qui accueille Eric Orsenna à l'occasion de la sortie de son nouveau livre. Eric Orsenna qui vient de publier L'entreprise des Indes aux éditions Stock. Et puis on parlera politique aussi avec la journaliste Raphaël Baquet qui fait partie des invités de Stéphane Bern. Quant à moi, je vous retrouve avec toute l'équipe, avec tous les chroniqueurs demain vendredi, ici même à 10h. Salut à tous, passez une très très bonne journée à l'écoute de France Inter.